Vous écoutez Secret d'Histoire, Pedro II, le dernier empereur du Brésil. Quatrième partie.
À l'époque, Secretario était la propriété du planteur Laureano Correa e Castro, titré baron do Campo Belo par l'empereur Pedro II.
Marta Ribeiro, propriétaire de la fazenda do Secretario.
C'était une fazenda gigantesque qui comptait 366 esclaves. C'était de petits palais. On était au bout du monde, mais on pouvait profiter de toute cette richesse, de toute cette beauté. Comme vous pouvez le voir, l'étage était la partie noble, où se trouvait la salle à manger et une salle de musique. On se recevait d'une fazenda à l'autre et on s'amusait beaucoup. Dom Pedro II a été invité à une soirée, à un dîner. À cette occasion, le baron avait demandé à toutes les femmes de venir avec une petite branche de café dans les cheveux.
Mais à Secretario, comme dans les autres fazendas, tout ce raffinement n'aurait jamais pu exister sans le travail et la souffrance des esclaves. À Secretario, si la maison du maître est toujours intacte, la senzala, le bâtiment où vivaient les esclaves, a entièrement disparu.
Dans cette fazenda, il existe un cimetière des esclaves. Je l'ai restauré car il avait été détruit. À Noël, au jour des morts et à mon anniversaire, les dates que je considère comme importantes, je leur apporte des fleurs car j'ai une grande affection pour eux.
Pour retrouver l'une des dernières senzalas encore visibles et comprendre comment sont traités les esclaves, il nous faut nous rendre à la fazenda de Ponte Alta, un peu plus loin dans la vallée du Paraíba.
La senzala compte environ 24 cellules.
Roberto Freitas, conférencier.
Et selon le dernier inventaire dont nous disposons, on dénombrait environ 400 esclaves ici dans la fazenda. Cet espace pouvait abriter 10 à 15 personnes qui dormaient sur des nattes en osier. Les nattes se trouvaient sur le sol et chacun avait la sienne. Les tables des animaux se trouvaient en dessous. C'était une technique de chauffage qui permettait aux gens de ne pas avoir trop froid l'hiver. À l'époque, il n'y avait pas de fenêtres, mais de simples trous pour respirer. Et chaque nuit, les esclaves étaient enfermés à double tour. Le matin, on faisait habituellement l'appel et on comptait les esclaves pour voir si quelqu'un s'était échappé.
Pour les évader, le salut consiste à rallier l'une des communautés clandestines, les Quilombos. Installés dans des lieux difficiles d'accès, les esclaves y vivent en autarcie et pratiquent la capoeira, cette lutte importée d'Afrique. Mais dans chaque fazenda, un personnage redouté, appelé capitaine do mato, est chargé de leur faire la chasse. En cas de capture, les fuyards savent que le châtiment sera terrible. Face au scandale de l'esclavage, une partie de la société se mobilise. La princesse héritière Isabelle, qui seconde de plus en plus souvent son père, est l'une des personnalités les plus engagées. À Petrópolis, le palais Isabelle est l'un des hauts lieux du combat pour l'abolition. Situé à quelques centaines de mètres du palais impérial, il est toujours la propriété de ses descendants directs.
La princesse Isabelle, elle a dédié sa vie, elle allait voir les esclaves.
Dom Manuel d'Orléans-Bragance, descendant de la princesse Isabelle.
Ces arbres de camélia qui sont plantés ici, dans le jardin, ont été plantés par elle. La camélia, c'était le symbole de l'abolition. Il y a une photo prise dans cet escalier. Et c'est l'empereur, l'impératrice, Teresa Cristina, entourée de toute sa famille. L'empereur avait une immense tendresse envers sa fille, Isabelle, et il avait beaucoup de respect mutuel. Et on voit ça dans des lettres, toute la tendresse, le respect, le cariño, comme on dit, pour mon cher père, mon cher respectueux père. Bien sûr qu'il devrait parler de politique.
La famille impériale a toujours entretenu de très bonnes relations avec des membres de la société qui n'étaient pas blancs.
Francisco Vieira, historien.
Il a eu un bal au Palais Isabelle et la princesse s'est aperçue qu'une jeune fille a refusé d'inscrire le nom du grand ingénieur André Rebouças, qui était noir, dans son carnet de bal. Et au moment de l'ouverture du bal, le comte est allé demander à ce monsieur, qui était un ami très proche, d'ouvrir le bal avec la princesse. Donc, ils avaient ce geste de sympathie et clairement pour la fin de l'esclavage. Les enfants de la princesse Isabelle avaient un petit journal qu'ils faisaient de propagande pour la fin de l'esclavage.
Pour autant, face à une question aussi complexe, l'empereur du Brésil choisit la prudence.
N'oubliez pas que c'est l'époque de la guerre de sécession. Dom Pedro est au courant de ce qui se passe aux États-Unis. L'abolition de l'esclavage par Lincoln, pof, et une guerre civile.
Guy Gauthier, historien.
Or, le Brésil, lui, sortait déjà de guerres sécessionnistes importantes. Il ne voulait pas, en plus, une guerre de sécession nouvelle. Il va agir progressivement.
Par des mesures parcellaires, mais qui sont perçues comme étant la meilleure méthode pour éteindre progressivement, doucement, sans conflit, et si possible sans indemnisation, l'esclavage de manière naturelle.
Ce sera la loi du ventre libre en 1871, c'est-à-dire le fait d'émanciper les enfants nés d'esclaves.
Sébastien Roseau, historien.
Et puis, quelques années plus tard, la loi dite des sexagénaires qui vient émanciper les quelques esclaves qui arrivent à atteindre leurs 60 ans.
On pense qu'en gros, une génération plus tard, il n'y a plus d'esclaves puisqu'on n'en importe plus, que les vieux seraient morts et que les jeunes seraient affranchis.
Alors que l'empereur se soigne en Europe, c'est finalement la princesse Isabelle, régente de l'Empire, qui porte le coup de grâce à l'esclavage. Le 13 mai 1888, à Rio, elle réussit à faire voter par le Parlement la loi d'or qui proclame qu'à compter de ce jour, l'esclavage est aboli au Brésil. Grâce à Isabelle, désormais surnommée à Redentor, à la Rédemptrice, et à son père, Dom Pedro, les 700 000 esclaves du pays sont enfin libres.
Pedro II serait exclamé « Mais quel grand pape !»
Pierre Léglise Costa, historien.
Le peuple brésilien qui enfin a reconnu cette nécessité, ce besoin d'abolition de l'esclavage pour lequel il avait tellement lutté.
À Rio, la foule acclame la princesse Isabelle, âgée de 42 ans. Mais avec la fin de l'esclavage, de nouveaux problèmes apparaissent.
Le jour au lendemain, la main-d'œuvre qui était gratis par l'esclavage est libérée. Donc toutes les entreprises de canne à sucre, des grands fermiers et tout ça, vont rester sans main-d'œuvre. Donc ça a créé un mal-être dans les puissances économiques de la nation.
Et d'autre part, socialement, c'était aussi une catastrophe.
Leonardo Tonus, professeur de littérature.
Aucune politique d'insertion de ces populations extrêmement pauvres a été pensée par le gouvernement.
Et il y a une phrase de l'empereur envers sa fille en disant « Papa, peut-être je me suis précipité, malgré cette position humaine que j'ai eue. Désolé, j'ai provoqué la... pousser, sans vouloir, le mouvement pour la déclaration de la République. » Et le père la tranquillise. Il dit « Ne vous en faites pas, ma fille. Cet événement, plus tôt ou plus tard, allait venir. »
Au bout de 50 ans de règne, Dom Pedro a le sentiment du devoir accompli. Car avec l'abolition de l'esclavage, il a réalisé la plus belle de ses ambitions. Faire enfin entrer le Brésil dans le cercle des pays civilisés.
Collège impérial, bibliothèque, académie, tout au long de son règne, Pedro II, membre associé de notre Académie des sciences de Paris, a cherché à doter le Brésil de grandes institutions culturelles. Parmi tous ces lieux de savoir, il en est un au cœur de Rio de Janeiro qui a un charme infini. C'est le cabinet royal portugais de lecture. Désireux d'honorer les lettres lusophones, un groupe de commerçants portugais installés au Brésil s'est chargé de financer la construction de ce petit bijou. Sur 3 étages, des kilomètres de livres rares, dans la lumière d'une verrière zénitale, croient 150 000 ouvrages qui reposent sur une extraordinaire structure de fonte de fer rehaussée à la peinture dorée. Tout autour, on admire les noms des plus grands auteurs que préside le buste monumental du poète Luís de Camões, auteur des Lusiades, la grande épopée en vers de la nation portugaise. En 1880, c'est Dom Pedro lui-même qui pose la première pierre de ce cabinet de lecture. Sur les pans de cette vitrine en jacaranda, on distingue les figures sculptées des grands écrivains portugais comme Garrett ou Herculano, qui était un ami personnel de Dom Pedro. Ce meuble abrite un ouvrage très précieux qui rend hommage au premier président de ce lieu. Si la personne de Dom Pedro demeure très respectée par les Brésiliens, ils sont de plus en plus nombreux à critiquer sa politique, en particulier les barons du café qui ne lui pardonnent pas de les avoir privés de main-d'œuvre en abolissant l'esclavage. Désormais, c'est une évidence, on s'achemine vers la fin du règne.
Saisissant le prétexte d'une visite à Rio de la marine chilienne, le gouvernement a décidé d'organiser un grand bal afin de raviver le prestige de la monarchie aux yeux des élites brésiliennes. Le 9 novembre 1889, la fête se tient dans le tout nouveau palais de l'île fiscale, au milieu de la baie de Guanabara.
L'empereur et la princesse Richer, avec leurs époux, sont arrivés dans la galéote impériale. C'est un petit bateau. Ce bal célébrait aussi les noces d'argent de la princesse Richer avec le prince Gaston d'Orléans, comte II. Le moment où l'empereur est entré, il a eu un petit glissement, je ne sais pas si on le sait en français, mais alors il a rigolé, il dit « Alors la monarchie a glissé, mais elle n'est pas encore tombée. » Le bal se passait autour de l'île et même dans ses petits salons, mais la famille impériale avait une salle spéciale où ils recevaient les officiers chiliens. On a utilisé des lampes électriques, c'était une nouveauté. On a eu des sorbets comme dessert, ce qui aussi était une nouveauté. Ce bal a eu beaucoup de critiques parce que c'était une grande dépense au moment où vraiment le Brésil est toujours un peu en crise.
Dom Pedro II est un homme qui a beaucoup vieilli. Le bruit court que pendant ce bal, n'est-ce pas, l'empereur va abdiquer et annoncer que sa fille Isabelle monte sur le trône à sa place immédiatement. Ça a jeté un traumatisme énorme.
Car dans cette foule élégante, les mécontents sont nombreux. Outre les grands propriétaires, le clergé reproche à l'empereur son refus de combattre la franc-maçonnerie. Tandis que les militaires se plaignent de n'avoir pas été assez récompensés au lendemain de la guerre du Paraguay. Pour des raisons diverses, tous s'accordent pour refuser l'arrivée sur le trône d'Isabelle.
Le bal de l'île fiscale est même devenu une expression au Brésil quand on est prêt qu'une catastrophe arrive. Vous comprenez? C'était le chant du cygne de la monarchie.
Depuis quelque temps, une étrange doctrine venue de France inspire la réflexion des républicains. Il s'agit du positivisme, un système qui vise à refonder la société par les sciences. Elle a été élaborée 50 ans plus tôt par le philosophe et polytechnicien Auguste Comte, dans son petit appartement de la rue Monsieur le Prince, à Paris.
Pour les disciples positivistes, c'était un appartement sacré. Ils disaient quelquefois que c'était notre cab, notre pierre sacrée de la Mecque.
Jean-François Braunstein, président de l'association La Maison d'Auguste Comte.
Et donc, ils ont tenu à ce que l'appartement reste tel quel. me souviens d'un disciple positiviste brésilien qui est arrivé en pleurs dans cette chambre parce que c'est là qu'est mort Auguste Comte. Comte mangeait avec une balance, puisqu'il mesurait de manière très précise son régime alimentaire. Il a eu toute sa vie une hygiène alimentaire très stricte. Et il travaillait face à un miroir, ce qui est assez étonnant. C'est là qu'il a écrit toutes ses œuvres en continu, si je puis dire. Dès qu'il avait fini un livre, il commençait un autre livre. Selon lui, vraiment, la philosophie ne vaut que si elle s'inspire des sciences, et donc il classifie les sciences. Auguste Comte reste surtout dans l'histoire comme étant celui qui a fondé une nouvelle science qui s'appelle la sociologie, la science des sociétés, et qui va lui permettre ensuite de réorganiser, comme il le dit, la société.
Mais l'appartement d'Auguste Comte est aussi le lieu où il a vécu en 1845 une année sans pareille, celle de son histoire d'amour avec Clotilde Devaux. En cette jeune femme séparée de son mari, le père du positivisme a le sentiment d'avoir trouvé la femme de sa vie.
Malheureusement, elle meurt au bout d'un an et Auguste Comte va essayer de préserver le souvenir de Clotilde Devaux à travers toute une série de rituels, notamment des prières qu'il fait devant le siège où elle s'asseyait ici, des lettres qu'il lui écrit après sa mort. Et il a conservé également dans cette pièce le bouquet de fleurs que lui aurait apporté Clotilde. Comte fait tout ce qu'il peut pour ne pas oublier Clotilde, et il fonde une religion. Ce qui est assez fascinant, c'est un polytechnicien, c'est un scientifique, c'est un mathématicien, et en même temps, il fait place au sentiment, à la religion, qui selon lui est nécessaire pour qu'une société subsiste.
À Paris, la religion de l'humanité fondée par le philosophe possède toujours son lieu de culte. C'est la chapelle positiviste, rue Payenne, dans le quartier du Marais.
Sur l'autel de la Chapelle de l'Humanité, on a une représentation de Clotilde Devaux, en fait, en déesse-mère de l'humanité, tout habillée de blanc, qui tient un enfant dans ses bras et qui représente l'avenir de l'humanité.
David Labreur, membre de l'association La Maison d'Auguste Comte.
La religion de l'humanité est basée sur la notion même d'humanité qui représente tous les hommes et femmes qui ont vécu, qui vivent, qui vivront. Et chaque mois, en fait, était incarné par un grand homme et par une notion. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier mois, on a la théocratie initiale qui est incarnée par Moïse. Il y avait des odes à Auguste Comte, des lectures de lettres de Comte et Clotilde. Il y avait aussi des gestes un peu semblables au signe de croix. On se tapait la tête en disant voilà, la raison, le sentiment, l'activité. Le grand prêtre de l'humanité pouvait administrer des sacrements. 7 ans après la mort, on était évalué comme ayant fait le bien ou le mal dans sa vie. Et donc, on était incorporé à l'humanité si on avait fait le bien.
À Rio, le positivisme d'Auguste Comte permet aux républicains brésiliens, désormais alliés au chef d'état-major, le maréchal Fonseca, de structurer leurs pensées.
Il y a à la fois le côté scientifique d'Auguste Comte, qui plaît à ses médecins, militaires, mais en même temps, il y a ce côté religieux, sentimental, amoureux, qui les fascine aussi. C'est une pensée aussi de l'ordre, et donc le fameux drapeau brésilien, qui est un drapeau inventé par les positivistes brésiliens, a pour devise « ordre et progrès », c'est la devise du positivisme.
Depuis quelque temps, au Brésil, sur le chemin de l'empereur, il arrive que dans la foule, on crie « Vive la République !» Au printemps 1889, en sortant du théâtre, un immigré portugais a même tenté de l'assassiner. De plus en plus, Dom Pedro II vit replié dans son palais. Le 15 novembre 1889, c'est à Petrópolis qu'il reçoit un télégramme l'informant qu'un groupe de militaires s'est emparé du gouvernement.
C'est une révolution de salon. C'est-à-dire que tout d'un coup, en grand uniforme, avec ses quelques soldats, Fonseca, sabre au clair, entre dans la salle du Conseil des ministres, prend possession du gouvernement, en quelque sorte.
Michel Faure, historien.
Et a été poussé sur le balcon pour déclarer la création de la République des États-Unis du Brésil.
Certains régiments rebelles, n'est-ce pas, vont bloquer le palais impérial. La famille impériale est prisonnière, le gouvernement est prisonnier et tout le monde est perdu. L'empereur est un peu perdu, lui, hein. Gaston II, son gendre, lui pose la question « Mon père, que faisons-nous » Dom Pedro II répond « Il n'y a qu'à dissoudre les unités rebelles !» Et Gaston qui dit « Mais père, comment dissoudre des unités rebelles ?» Beaucoup de militaires lui ont dit, et notamment l'amiral Tamandaré, qui était dans la baie de Rio avec son cuirassé, « Sire, montez sur mon bateau, on va en province et on fait une contre-révolution !» Et il a dit non. Il ne veut pas de guerre civile entre Brésiliens, dans une nation qu'il a construite. Il ne veut pas de ça.
Tout se passe en 48 heures, en fait. On demande poliment à la famille impériale de bien vouloir partir du pays. Et Pierre II, qui est, je crois, là du pouvoir, très sincèrement, il est fatigué d'être au pouvoir, il donne son accord pour partir sans aucune résistance.
C'est à ce moment que Raphaël, le plus vieux serviteur de l'empereur, est informé du coup d'État. Âgé de 98 ans, l'ancien esclave veille sur Pedro comme un père depuis son enfance.
Tout à coup, l'empereur cesse d'être empereur, s'en va, quitte ce Brésil qu'ils avaient construit finalement, qu'il avait d'une certaine façon aidé à construire en étant toujours là avec l'empereur. Il ne le supporte pas et tombe raide mort.
Du coup, le gouvernement provisoire demande à un colonel d'aller chercher toute la famille impériale et de l'embarquer rapido presto pour l'Europe. Et là, effectivement, il y a des choses désagréables où on oblige l'empereur à s'habiller rapidement, l'impératrice, c'est la panique générale. Et donc Pedro a ce mot extraordinaire. Il dit aux militaires qui sont là, n'est-ce pas ? Mais enfin, vous nous traitez comme des esclaves, comme jadis on traitait les esclaves en fuite. Il est vexé de ce point de vue-là.
Et puis il va aussi refuser cette dotation que lui donne le gouvernement républicain. Il décide de partir, mais de partir sans cet argent, sans cette manne financière, quitte à, une fois en exil, demander l'aide de ses proches.
Et puis après, bon, il s'en va et il a beaucoup de dignité. Et quand un navire de guerre suit le paquebot de l'empereur, de l'impératrice et de la famille impériale, fait télégraphier au commandant du Rachuelo qui suit, « Inutile de me suivre, je ne reviendrai pas. »
En ce 17 novembre 1889, Dom Pedro vogue désormais vers le pays de sa famille, le Portugal. À Lisbonne, les exilés débarquent en plein couronnement. Le nouveau roi Dom Carlos décide de loger son vieil oncle dans le palais de Queluz, qui fut autrefois la résidence de l'empereur Pedro Ier, son père.
Queluz est un peu une villégiature lointaine. Et il y a ce très beau jardin, il y a deux ou trois pièces absolument formidables, mais c'était un lieu plus ou moins laissé pour compte.
Une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller dans la chambre où est mort son père, Pierre Ier en 1834.
La chambre de son père est très particulière parce qu'elle est circulaire. Elle fait donc comme un centre du monde, avec une série de peintures qui représentent Don Quichotte.
Et il va s'étendre sur le lit, comme s'il avait la prémonition de sa propre mort, mourir. Peut-être qu'il l'a souhaité d'ailleurs, mourir où est mort son père, qui pourtant avait martyrisé sa mère, l'avait abandonné, etc. Un bel exemple de réconciliation nationale et familiale, si j'ose dire.
Quelques jours plus tard, Dom Pedro perd sa femme, l'impératrice Thérèse Christine, emportée par une crise cardiaque. Avant de mourir, elle s'exclame « Je meurs de chagrin et de regret ». Désormais veuf, l'empereur décide alors de rejoindre le pays de son cœur, la France. Fidèle à ses habitudes, il s'installe à Paris, rue de l'Arcade, à l'hôtel Bedford.
Quand il arrivait à l'hôtel Bedford, c'est un homme fatigué.
Gérard Berru, directeur de l'hôtel Bedford.
Qui marche difficilement, vite essoufflé.
Il vit à l'hôtel pendant plusieurs mois. Il vit de plus en plus confiné dans cette chambre, avec de moins en moins de visiteurs. Et tout ça était assez triste, en fait. Il a une enfance triste et une vieillesse également solitaire.
Il recevait cependant beaucoup d'intellectuels, beaucoup de peintres, de compositeurs. Il a connu le compositeur Camille Saint-Saëns, qui habitait aussi l'hôtel Bedford.
Il voyage aussi en province et il va voir Madame de Barral, la comtesse de Barral, qui est à Cannes. Donc il la revoit, il rediscute, il se souvient de tout ce qu'ils ont vécu ensemble pendant des années.
Il ne s'intéresse plus aux choses du Brésil. Il considère qu'il a beaucoup fait pour son pays. Il se détache complètement des affaires et des joutes politiques, comme il le faisait déjà quelque peu, en fait, depuis les années 1880.
Fin novembre, début décembre 1891, il décida de faire une promenade en calèche au bord de la Seine, calèche découverte. Il a pris froid. À son retour de cette promenade, il se sentit mal, le médecin est venu et cette maladie s'est transformée en pneumonie. Un médecin prévient sa fille Isabelle. Et puis, dans la nuit du 4 au 5 décembre, il meurt. Il meurt exactement le 5 décembre à 0h35. Et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était « Que Dieu exauce mes souhaits, je souhaite la paix et la prospérité pour le Brésil ».
La mort de l'empereur suscite un émoi très fort à Rio. Des centaines de télégrammes sont reçus en provenance du Brésil.
Les pompes funèbres sont arrivées afin de préparer le corps pour les funérailles, découvrent dans le placard de sa chambre un paquet sur lequel il était écrit « Je souhaite que ce paquet soit déposé dans mon cercueil si je meurs en dehors du Brésil ». Et dans ce paquet se trouvaient des échantillons de terre des différentes provinces du Brésil.
Les funérailles de Dom Pedro II ont été organisées remarquablement par la République française. On a dit qu'elles étaient presque au niveau de celles de Victor Hugo. 300 000 personnes quand même, catafalques promenées dans les rues de Paris, l'armée mobilisée, une foule énorme à la Madeleine.
Tout à fait lié à sa personnalité et à son éducation. Il y a eu de la très bonne et très belle musique, notamment le Libérame de Forêt.
C'est vraiment presque un souverain français que nous perdons. C'est le plus grand ami de la France et c'est le père de l'amitié franco-brésilienne.
Trois jours plus tard, le 12 décembre 1891, le corps de Dom Pedro est transféré à Lisbonne, dans le mausolée des Bragances. Mais il faut attendre 1921 pour qu'il puisse rejoindre le Brésil, où l'accueille une foule innombrable. Le dernier empereur est enterré dans la cathédrale qu'il a fait ériger à Pétropolis, aux côtés de sa femme, de sa fille et de son gendre. Sur l'un des vitraux, on peut lire un poème qu'il a écrit en exil.
Bientôt, Seigneur, de ma geôle d'argile, je sortirai en murmurant avec anxiété cette ardente prière timorée. Daignez, Seigneur, l'entendre et l'exaucer. Placez-moi auprès de la croix du Sud qui, dans le ciel antarctique, scintille en majesté pour que je puisse sans cesse contempler mon très aimé Brésil, si regretté.
Près de 130 ans après sa mort, le souvenir de Dom Pedro II, dernier empereur du Brésil, ne s'est toujours pas effacé dans le cœur des Brésiliens. S'il n'a pas réussi à enraciner durablement la dynastie des Bragances sur cette terre du Nouveau Monde, on lui doit tout de même la naissance d'une nation et un exemple, celui d'un souverain parfaitement désintéressé, entièrement dévoué à l'intérêt général et au bonheur de ses concitoyens. Un empereur républicain, en quelque sorte, et qui a perdu son trône pour avoir voulu abolir l'esclavage. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.